Souvenirs de famille. Jean-Paul Fouchy, de l'Académie des sciences, évoqué par son arrière-cousin, une ascendance qui remonte à 6-7 générations, puisque Jean-Paul Fouchy est né en 1707 et que Jean-Pierre Fouchy, cousin en ligne directe, lui est né en 1958.
Le savant voit, le poète ressent. C'est ce qui m'a interpellé chez mon cousin Jean-Paul Fouchy. Il était à la fois savant, il était à la fois poète, et donc avait une vision du monde particulière qui m'a intéressé. Mais ça, je ne l'ai découvert que petit à petit. En fait, tout le monde dans ma famille connaissait cet ancêtre Jean-Paul Fouchy et j'avais quand même certaines informations sur lui. Et petit à petit, en prenant de l'âge, quand moi-même j'ai dû faire des choix dans ma vie, des choix professionnels, j'ai repensé à lui et j'ai constaté qu'alors qu'il pouvait prendre la suite de son père qui travaillait pour Louis XIV, qui avait une place excellente, il ne l'a pas fait. Et je me suis demandé pourquoi. Jean-Paul Fouchy est né en 1707 et malheureusement pour lui, son père est mort alors qu'il n'avait que 7 ans, en 1714. Son père était graveur du roi, graveur de Louis XIV. C'est lui qui a créé les caractères de l'imprimerie moderne, les encres modernes que l'on utilise toujours. Et il avait une grande renommée. Il avait un très bel atelier. En mourant, c'est son second, Alexandre, qui a pris la suite. Et il est possible, c'est ce que je pense avoir découvert, bien qu'il n'y ait pas de certitude, que la maman de Jean-Paul a aimé Alexandre et que, bien qu'officiellement ils ne se soient pas mariés, Alexandre est devenu le parâtre, un gentil parâtre, mais le parâtre tout de même de Jean-Paul Fouchy. C'est, à mon sens, ce qui explique que Jean-Paul n'a pas pu ou n'a pas voulu prendre la suite de son père. Et comme il était poète déjà tout jeune, il avait déjà la tête dans les étoiles. Et l'astronomie était en vogue à l'époque. L'astronomie se développait pour permettre aux navigateurs de se rendre de par les mers, de découvrir les colonies. C'était une science très importante à cette époque. Il était bon en mathématiques, il s'est orienté vers l'astronomie. Son père était musicien. À ses moments perdus, il était organiste et son fils, donc Jean-Paul, a appris par son père, par des musiciens, par sa maman aussi peut-être, à jouer de différents instruments et notamment de l'orgue. Et on sait que toute sa vie, il a joué le dimanche, incognito, dans des églises de Paris et il a joué de l'orgue toute sa vie sans en faire grande publicité. Il n'y avait que ses très proches parents qui le savaient. Le caractère de Jean-Paul convenait tout à fait à ses fonctions de secrétaire perpétuel. S'il a été désigné par ses prédécesseurs, Fontenelle, pas moins que Fontenelle, et Mérand, comme secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, c'est parce qu'il était assez politique, c'est parce qu'il avait un caractère doux, il n'avait pas de saute d'humeur, et il était à même de contrôler la petite vie de l'Académie des sciences. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, les scientifiques étaient de véritables vedettes. C'était les équivalents des people d'aujourd'hui. Des joueurs de football ultra connus, des artistes de cinéma très connus. C'était un petit peu ça l'équivalent des scientifiques au XVIIIe siècle. C'était des gens qui gagnaient pas mal d'argent, qui étaient demandés par toutes les cours européennes, qui étaient demandés en Prusse, qui étaient demandés en Russie, qui étaient demandés en Angleterre, qui faisaient le bonheur des salons parisiens. C'était de véritables vedettes. Et pour mener tout ce petit monde, il fallait quand même une certaine souplesse d'esprit, une certaine ouverture d'esprit. Tous les scientifiques n'avaient pas le même caractère, tous les scientifiques n'étaient pas issus des mêmes milieux, certains étaient nobles, d'autres n'étaient pas nobles, certains avaient une fortune familiale, d'autres non, certains étaient un petit peu plus littéraires que d'autres, certains étaient des militaires, certains étaient de véritables scientifiques et auraient mérité tout à fait aujourd'hui d'être membres de l'Académie des sciences, d'autres étaient des membres honoraires, c'est-à-dire que c'était des maréchaux de France, par exemple, et qui, à un certain âge, intégraient l'Académie pour une raison honorifique. Donc, il fallait mener à bien tout ce monde. Et si Jean-Paul n'avait pas eu un caractère assez souple et avenant, je pense qu'il n'aurait pas été choisi par Fontenelle et par Mérand pour accomplir cette tâche. Le XVIIIe siècle était le siècle des Lumières, c'est-à-dire c'est le siècle des scientifiques qui n'étaient pas que scientifiques. À l'époque, il s'agissait d'esprits universels. C'était des mathématiciens, c'était des astronomes, c'était ce que l'on appelait à l'époque des physiciens. Ce n'est pas le même sens qu'aujourd'hui. Un physicien, c'est une personne qui étudiait les phénomènes, qui étudiait les choses, qui étudiait la nature à l'époque. Mais c'était aussi des philosophes et ils voulaient tous plus de justice, moins de despotisme, moins de royauté, à un niveau plus ou moins élevé. Certains avaient un caractère plus propice à la préparation de la Révolution française, mais tous avaient quand même une très forte personnalité. De se faire valoir plus que de valoir, c'est une citation de Jean-Paul Fouchy. Et il prêchait de très très belles choses, mais à l'intérieur de l'Académie, parfois il y avait de fortes dissensions. Et Jean-Paul essayait de mener à bien tout ce petit monde, mais qui était très complexe. Et derrière les idéaux, eh bien, il y a la nature de l'homme. Et la nature de l'homme, au XVIIIe siècle, est comme elle est aujourd'hui au XXIe siècle. Autant j'ai d'informations sur son père Philippe qui a été recruté entre guillemets par Louis XIV pour créer les caractères que nous connaissons aujourd'hui, que nous utilisons, autant je sais qu'un de ses oncles, donc un frère de son père Philippe, a été garde du corps de Louis XV, autant je n'ai pas trouvé trace de relation directe avec Louis XV ou avec Louis XVI. Bien qu'il en a eu forcément, je sais qu'il a fréquenté Versailles, je sais qu'il a fréquenté les ministres, là on a des témoignages très précis. En tout cas, il était très proche de l'entourage de Louis XV et de Louis XVI, et notamment des ministres qui avaient la tutelle de l'Académie des sciences. Puisqu'il a été secrétaire perpétuel de 1943 à 1776-77, donc pendant tout ce temps, il a représenté l'Académie auprès du pouvoir. Les scientifiques de l'Académie des sciences, pour les plus connus aujourd'hui, les Diderot, les D'Alembert, pour ne citer que ceux-là, vous voulez vraiment faire évoluer la société française, la société de l'Europe. Mais ils ont été recrutés à grands frais par le roi de Prusse, par la tsarine de Russie, pour créer, pour développer des académies, pour présider les académies de Berlin, les académies de Saint-Pétersbourg. Et quand même, ils ont servi des despotes qui se disaient éclairés, en tout cas qui voulaient se montrer éclairés, mais qui ne l'étaient pas forcément tant que cela, puisque ce sont des gens qui ont déclenché des guerres, il y a eu des tueries abominables, beaucoup de morts, des dictatures. Donc c'était un petit peu ambivalent. Et Jean-Paul Fouchy, dans les éloges de ces personnages, n'omettait jamais de faire une petite remarque sur le fait que ces académiciens, qui avaient de très grandes valeurs, de très grandes mérites, qui avaient réalisé de très grandes découvertes, eh bien, par ailleurs, quand même avaient gagné pas mal d'argent et parfois étaient payés par des souverains qui allaient un petit peu à l'encontre de leurs idéaux. Et à l'époque, ils se permettaient de le dire et de l'écrire, puisque ces éloges étaient lus en public, étaient imprimés par l'imprimerie royale et tout un chacun qui savait lire à l'époque pouvait les lire. Donc il ne se retenait pas de dire ce qu'il pensait sur ses partenaires de l'Académie. À l'époque, on essayait de cartographier la Terre, mais pas seulement de cartographier la Terre, les océans, les côtes pour les marins qui allaient vers les colonies, pour les militaires aussi, mais aussi de connaître, pour des raisons qui intéressent la physique, intéressent la réflexion de Newton, la forme de la Terre. Certains disaient qu'elle avait une forme, on dirait aujourd'hui un petit peu ovale, un petit peu de ballon de rugby, et d'autres assuraient qu'elle n'était pas tout à fait ronde, mais qu'au contraire, elle était un petit peu aplatie au pôle, et on utilisait le terme de forme de mandarine à l'époque. Et lui pensait justement qu'elle avait cette forme de mandarine. Mais pour la prouver, il fallait calculer la latitude sur Paris, mais aussi il fallait effectuer des calculs à l'équateur, et il fallait se rendre à l'équateur, ce qui n'était pas chose facile à l'époque. Pour certains, le voyage a pris 9 ans, pour d'autres 10 ans, certains sont revenus encore beaucoup plus tard. Il a fallu traverser l'Atlantique, il a fallu traverser l'isthme de Panama et se rendre à Quito, donc ce qui était toute une expédition à l'époque. Il a fallu traverser la jungle, il a fallu traverser des montagnes, la cordillère des Andes. Et à ce moment, Jean-Paul Fouché, qui était une des trois personnes qui avait été à l'origine de ce voyage pour l'Équateur, est tombé amoureux. Et donc, son épouse, d'après ce que j'ai cru comprendre, sa future épouse, sa fiancée, bien sûr, ne souhaitait pas voir partir son fiancé pendant des années, avec une forte probabilité pour qu'il ne revienne jamais. Et donc, à ce moment-là, il a décliné cette possibilité et il a fallu mettre au point un stratagème pour justifier du fait que lui, qui avait été l'instigateur de cette expédition, ne parte pas. Expédition financée par le roi, à grand renfort de publicité. Donc, on a déterminé qu'il était malade, qu'il souffrait d'une maladie inconnue, mais très grave, et qu'il empêcherait de partir. En fait, je pense qu'à cette époque, il n'a jamais été malade, puisqu'il est resté à l'académie, il a mené ses études, et très peu de temps après, il est devenu secrétaire perpétuel. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est qu'il s'est marié. Et il a eu une première fille à qui il a donné le prénom inverse de sa femme. Sa femme était Marie-Catherine, sa fille était Catherine-Marie. Et malheureusement, peu de temps après la naissance de sa fille, son épouse est décédée. Et plus tard, il a connu une deuxième épouse, comme son père, et il a eu d'autres garçons et d'autres filles avec. Je me suis penché sur sa vie affective, mais pas uniquement. Et il n'y a pas trop d'indiscrétion d'ailleurs, le manuscrit est fort convenable. Mais je me suis aussi penché sur les relations qu'il avait menées avec ses professeurs, voire ses élèves, les autres membres de l'académie. Il a été l'élève de Lille, il a été l'élève de Cassini. Alors, chose amusante, je suis moi-même niçois. Et Cassini, qui fut recruté par Louis XIV, qui fut le premier directeur de l'Observatoire de Paris, premier observatoire au monde de cette importance, était lui aussi niçois, comme son neveu Maralli. Et tous les deux sont devenus académiciens, l'Académie des sciences royales, et leurs descendants, sur plusieurs générations, ont été aussi académiciens des sciences. On compte 4 membres, donc à l'époque, déjà on parlait de Cassini 1, Cassini 2, Cassini 3, Cassini 4, et puis par la suite les descendants se sont orientés vers d'autres domaines que les sciences physiques et l'astronomie. Mais donc Jean-Paul a été élève des premiers, il a côtoyé les suivants et il a formé les derniers. Il a côtoyé donc les Cassini, les Maraldi, il a été élève de Lille, il a été élève aussi de Gaudin qui était très jeune mais qui était de quelques années un petit peu plus ancien que lui, qui lui a donné les premiers cours de mathématiques avec de Lille. Et puis il a aidé aussi bien qu'il a pu Clairaut. Et Gaudin, Clairaut, c'était de très très fortes personnalités. Gaudin, lui, était du voyage à l'Équateur, et Gaudin était le chef de l'expédition, à laquelle Jean-Paul n'a pas participé. Et Gaudin aimait beaucoup la physique, aimait beaucoup l'astronomie, les mathématiques, et il aimait aussi beaucoup les dames. Il n'est pas allé à l'Équateur immédiatement, il y a eu des escales, à Saint-Domingue, ailleurs. Et à toutes ces escales, il a fait des rencontres heureuses. Et le budget de l'expédition, le budget du roi de France, a été consacré à ces rencontres heureuses. Et heureusement qu'un autre membre de l'expédition, la Condamine, avait fait passer de l'argent à Quito qui dépendait de la couronne d'Espagne, et la couronne d'Espagne était liée à la France, puisque c'est le petit-fils de Louis XIV qui était roi d'Espagne, donc ça facilitait extrêmement bien les choses. Grâce à l'argent personnel de la Condamine, l'expédition a pu être menée à bien. On pourrait se demander pourquoi Jean-Paul Fouché a intégré l'Académie des sciences. On n'entrait pas aussi facilement que cela à l'Académie des sciences. Il fallait avoir fait ses preuves, alors avoir réalisé de grandes découvertes. Et l'une des découvertes principales de Jean-Paul Fouchy a été l'équation du temps moyen. C'est ce qui permet de calculer la position exacte du Soleil par rapport au zénith officiel. C'est ce qui permet de réaliser les gnomons, c'est-à-dire les cadrans solaires. Et aujourd'hui encore, on utilise cette équation pour dessiner parfaitement les cadrans solaires. L'équation du temps moyen est une équation bien connue des astronomes. Elle permet de déterminer qu'il n'y a que 4 jours dans l'année où le Soleil est au zénith à midi. Tous les autres jours de l'année, le midi étant défini de façon réglementaire et non pas par la physique et par l'astronomie, le Soleil atteint le zénith un petit peu avant ou un petit peu après le midi officiel. Et donc cette équation qui fait à peu près 3 lignes permet de dessiner pour tous les jours de l'année une forme en 8 ou une forme en alpha. Ayant découvert des tas d'éléments très intéressants sur la vie de Jean-Paul et sur les personnes qu'il a côtoyées, je me suis dit qu'il ne fallait pas garder cela pour moi. Il fallait essayer d'écrire un manuscrit, écrire un livre. Comme par ailleurs, j'ai déjà écrit quelques livres à connotation historique. Je me suis lancé, cela m'a pris 3-4 années. Il a fallu compiler les informations, avec aussi l'assistance de la documentation de l'Académie des sciences. Et je remercie d'ailleurs pour cela Florence Greff, qui m'a donné beaucoup de latitude pour trouver des informations au sein de la documentation de l'Académie des sciences. Il a fallu que je trouve une façon intéressante, captivante, de présenter toutes ces informations. J'ai utilisé le système du dialogue, tout est dialogué, c'est pratiquement le script d'un film. Des scènes qui sont classées par ordre chronologique pour que le lecteur puisse s'y retrouver. On peut lire le livre de la première à la dernière page, mais aussi y entrer de différentes façons grâce à des annexes, par exemple. Et puis, je me suis dit qu'il ne fallait pas se contenter de décrire la situation, il fallait essayer de voir en quoi elle était innovante pour l'époque, pourquoi le XVIIIe siècle est un siècle charnière dans l'histoire de l'humanité, pourquoi il se distingue du XVIIe siècle, et ce qu'il y a de différent par rapport à nos jours, et ce qui existe toujours, ce qui est toujours vrai. Alors pour ce faire, j'ai imaginé, et c'est la seule entorse à la réalité historique, que mon ancêtre, avec deux autres personnalités de l'époque, en l'occurrence Buffon et Crébillon fils, avait créé le delta des Lumières. Et par cette machine que je ne prends pas le soin de décrire, je laisse au lecteur le soin de l'imaginer puisqu'elle n'a jamais existé, eh bien je leur permets de voyager dans le temps, de rencontrer Philippe, le père de Jean-Paul Fouchy, et de voir ce qu'il y a de novateur dans le XVIIIe siècle, et puis de venir à ma rencontre, de venir voir Jean-Pierre Fouchy au XXIe siècle, de voir ce qui est différent et ce qui est toujours vrai, parce que la nature humaine étant ce qu'elle est, les relations politiques étant ce qu'elles sont, eh bien il y a beaucoup de choses qui sont encore exactes. L'éloge des Lumières, c'est le titre de ce manuscrit, n'est pas encore édité. Il faut que je cherche un éditeur. D'autres livres de moi ont déjà été édités. Et pour celui-ci, je n'ai pas encore cherché un éditeur. Je ne sais pas vers lequel je pourrais m'orienter.